BFM Business présente votre rendez-vous de référence de la fin de journée avec la grande interview des acteurs de l'actualité économique et politique et avec les experts du soir, débat sans concession autour des sujets du jour. Good evening business, Edwige Chevrillon, Guillaume Paul.
Il est bientôt 18h, bienvenue à toutes et à tous si vous nous rejoignez comme tous les soirs dans Good Evening Business jusqu'à 20h. Bonsoir Edwige.
Bonsoir Guillaume, bonsoir à vous.
Dans l'actualité ce soir, il y a donc ce conseil des ministres qui a duré même pas une demi-heure aujourd'hui à l'Elysée.
Ça a été express.
Expéditif effectivement. Donc conseil des ministres qui nous laisse toujours avec de grandes questions existentielles ce soir. Quelle hausse d'impôts pour qui, entreprise ou particulier? On va en parler bien sûr jusqu'à 20h ce soir sur BFM Business. Mais un grand patron sera avec vous d'ailleurs.
Absolument, c'est Laurent Melchior, il est le patron du groupe État. Alors lui, il est venu pour parler de son live show, c'est le 16e, ça va être l'émission sans dessus dessous, puisqu'on va parler de dessous, le grand show. Mais évidemment, je lui poserai la question, parce que c'est un groupe familial, est-ce qu'il redoute un peu la sauce fiscale de Michel Barnier? On dit que c'est un gouvernement pro-entreprise, oui ou non. Et puis, je lui poserai des questions évidemment sur le textile, un peu l'été meurtrier. Mais le groupe Etam se porte à peu près bien.
On verra ça, tout ça, on débriefera avec nos experts, avec vous, à partir de 18h30, les autres grands titres de l'actu ce soir. Commerzbank, Unicredit qui monte au capital, puis un gros deal notamment pour CMA CGM. Tout ça plus bien d'autres choses. On est ensemble bien sûr jusqu'à 20h sur BFM Business.
À tout de suite.
Good evening business, le journal.
Donc oui, plus qu'une rentrée, on va dire que c'était une pré-rentrée. Le premier conseil des ministres qui a eu lieu tout à l'heure à l'Elysée a duré à peine une demi-heure. On n'a donc pas vraiment évoqué les sujets qui fâchent, comme les hausses d'impôts. En revanche, on s'est astreint à envoyer quelques messages d'apaisement. Écoutez, sur la réforme des retraites, par exemple, la nouvelle ministre du Travail, Astrid Panosyan-Bouvet, c'était ce matin, lors de sa passation de pouvoir. Écoutez.
Il faut rendre la dernière réforme des retraites peut-être plus soutenable pour tous et répondre aux anxiétés qu'elle a pu générer, en particulier chez les femmes, comme l'a rappelé le Premier ministre hier sur les plateaux de télévision. Travailler 2 ans de plus dans un pays où, passé 55 ans, on a le sentiment qu'on n'a plus tout à fait sa place dans le monde du travail, ou quand le métier qu'on exerce est pénible, et oui, il y a des métiers qui sont pénibles toute une vie, ça peut apparaître comme anxiogène.
Voilà, dans quelle mesure va-t-on remodeler cette fameuse réforme des retraites? Ça fait partie des questions qu'on posera tout à l'heure avec nos experts. Astrid Panosyan-Bouvet, donc la nouvelle ministre du Travail. Et puis, autre sujet sur lequel on a voulu adresser un message d'apaisement aujourd'hui, c'est sur le pouvoir d'achat. Notamment sur la facture d'électricité. Écoutez Agnès Pannier-Runacher, la nouvelle ministre de la Transition écologique, ce matin également lors de sa passation de pouvoir.
L'efficacité énergétique tout d'abord, le nucléaire, les énergies renouvelables, toutes les énergies renouvelables, et enfin la sobriété énergétique. Outre les 4 piliers à mettre en œuvre les décisions nécessaires pour baisser les factures d'énergie des Français et des industriels et nous assurer que le budget 2025 permette d'accompagner vraiment les classes modestes et moyennes dans leur transition.
Voilà donc les sujets qui fâchent qui ont été évacués à Agnès Pannier-Runacher ce matin lors de sa passation de pouvoir, les hausses d'impôts, lesquels et pour qui, on en parlera bien sûr avec nos experts. Largement jusqu'à 20h sur BFM Business, 18h02, on a beaucoup de choses à vous raconter donc ce soir côté entreprise. À commencer par les banques et Unicredit, parce que ça y est, Unicredit apparemment est lancé chez Commerzbank. Bonsoir Antoine.
Oui, bonsoir Guillaume.
Il y a 10 jours, ils avaient annoncé prendre 9% du capital. Ce soir, ils sont à 21% et apparemment, ils n'ont pas envie de s'arrêter là, Antoine.
Clairement pas. Mais il l'avait dit, le patron d'UniCredit l'avait dit tout à fait officiellement. Une prise de contrôle totale est absolument pas exclue. Ça fait partie des options. Alors, la déclaration d'aujourd'hui est un petit peu curieuse parce que cette montée donc à 21%, effectivement, vous l'avez dit, se fait via des achats de produits dérivés, donc d'options sur les actions Commerzbank. Donc, tout cela est soumis à l'approbation des autorités de régulation. Donc, c'est pas encore fait. Rappelons que UniCredit aussi pour sa montée au capital de Commerzbank et à son éventuelle prise de contrôle de la banque allemande, a demandé officiellement l'autorisation à la BCE de pouvoir le faire. Oui. Pour l'instant, on n'a pas trop de réponses, mais voilà, il montre un petit peu les gros bras, on va dire.
29,9% du capital, en dessous des 30%,
c'est
ce qui va être... Oui, sauf que du côté allemand, ça passe très bien. Et d'ailleurs, Berlin a dit tout à l'heure...
Oula.
On n'est pas pour.
Du tout. Ils ont dit. Alors, ils ont admis cette fait pris de court lors du rachat d'une partie des actions que les autorités allemandes avaient mises sur le marché, d'actions Commerzbank, qui était immédiatement reprise par UniCredit. Là, ils disent on a encore 12% du capital. hors de question qu'on aille au-delà. Non, non, on arrête les ventes de titres parce que on ne veut pas que Commerzbank passe sous le giron UniCredit. Et ils l'ont même dit officiellement, hein, ce serait mauvais pour les entreprises allemandes. Donc là, on peut dire que les deux parties sont à couteau tiré. Le marché, en tout cas, la sent mal. Hein, autour de Commerzbank, le titre a perdu 5,7% en clôture à Francfort.
Voilà, Berlin hostile à une prise de contrôle de Commerzbank par UniCredit, source proche du ministère des Finances allemand, cité tout à l'heure par l'agence France-Presse. Ça mérite d'être clair. Merci beaucoup, Antoine Bougez-Port. On fait un point sur les marchés, bien sûr, dans un instant. Le temps de parler de ce qui était la grosse rumeur qui court depuis ce week-end dans la tech. Et vous parlez d'une rumeur. Bonsoir, Frédéric Simotel.
Bonsoir, Guillaume.
Intel va-t-il se faire racheter par Qualcomm? Apparemment, Antoine a la réponse par téléphone. Non, si ça se faisait, ça serait un coup de tonnerre, Frédéric.
Oui, c'est le coup qu'on n'avait pas vu venir. Hein. Même si on avait parlé qu'il fallait des fusions-acquisitions pour Intel, c'est vrai que là, se dessinait plutôt le scénario d'une profonde réorganisation chez Intel. Et puis voilà que la porte de sortie pourrait venir d'un Qualcomm qui n'a pas arrêté de planter des banderies dans le dos d'Intel. Hein. Voilà, faut quand même le voir depuis pas mal d'années. Qualcomm est devenu l'un des concurrents principaux d'Intel, au point de débarquer aussi dans le monde du PC. Ouais. Voilà, qui était la chasse gardée d'Intel, d'AMD, donc pas mal de choses à voir. Alors, Pat Gelsinger, le patron d'Intel, il pensait pourtant avoir bien verrouillé tout ça, hein, pour enrayer la chute de chiffre d'affaires, la baisse de la valorisation à moins 60%, c'est descendu l'action. Donc, réduction des coûts avec 16 000 suppressions d'emplois, repousser la construction d'usines, notamment en Europe,
pas tellement aux États-Unis,
notamment, et méga-usines, hein, il y avait des 30 milliards d'investissements, dont 10 milliards qui venaient de la part du gouvernement allemand. Il a suspension du versement des dividendes et puis surtout il avait peut-être envisagé une découpe en deux, donc d'un côté l'activité puce et puis de l'autre la production, en disant là ça va soit faire venir des nouveaux investisseurs, soit peut-être fusion-acquisition. Et donc là, c'est là où on a vu les Qualcomm sortir de bois, des pourparlers. Donc autour, l'acquisition serait 100 milliards, on serait parmi les plus grosses acquisitions de la tech. Il faudrait remonter du temps de AOL, Time Warner ou Vodafone, Mannesmann pour trouver des acquisitions dans la tech encore plus chères. Mais c'est un peu compliqué. Alors déjà, le montant, les synergies, elles sont pas évidentes. La culture est différente. Il y aurait possiblement des blocages par les autorités de concurrence. Hein. Vous vous souvenez, le Nvidia ARM ne s'était pas fait à cause des autorités de concurrence. Et puis, il y a aussi, c'est qu'en ce moment, il faut aller vite. Nvidia, ils vont pas les attendre, cette fusion et tout ça. Et donc là, on voit un autre sortir du bois, c'est le fonds de private equity Apollo, qui lui dit qu'il serait prêt à mettre 5 milliards d'euros, remettre un peu au pot et laisser Intel donc déployer sa stratégie présentée par Pat Gelsinger, ce qui serait vraiment quelque part un vote de confiance dans la stratégie déployée par le patron d'Intel. Donc voilà, on attend, mais en tout cas, on est en train de jouer vraiment là de très très gros coups sur l'échiquier de la tech avec Intel.
Parce que comme vous dites, Nvidia arrive, il faut aller très très vite.
Il faut aller vite. Et une fusion à 100 milliards, ça prendrait des années.
Voilà. Nvidia n'attendra pas. Merci beaucoup Frédéric. On en parle Tech & Co bien sûr ce
bien
soir.
Bien entendu, à partir de 20h.
Sur BFM Business, merci beaucoup. Côté entreprise toujours, CMA-CGM, propriétaire de notre chaîne BFM Business. CMA-CGM a annoncé le rachat de 48% du Brésilien Santos Brasil. Il souhaite en devenir intégralement propriétaire, je cite, dans les prochains mois. Santos Brasil est le principal opérateur d'infrastructures portuaires du Brésil. C'est aussi le propriétaire du plus grand terminal à conteneurs d'Amérique du Sud. Jean-Baptiste Huette.
Le terminal de Tecos Santos, c'est la cible que visait CMA-CGM. À lui seul, il traite 40% des volumes de conteneurs brésiliens. Plus de 2,5 millions d'entre eux y transitent chaque année. Et le groupe maritime entend d'ailleurs augmenter sa capacité à plus de 3 millions. À cela s'ajoutent d'autres terminaux et quelques installations logistiques. Une opération qui, au total, dépasse les 2 milliards d'euros. Un actif stratégique qui permet à l'armateur de s'ancrer encore un peu plus au Brésil. Un marché en pleine croissance. Cette nouvelle acquisition vient étoffer le portefeuille de terminaux de CMA-CGM, États-Unis, Chine, Pays-Bas, Ukraine, Niger, le groupe en opère une soixantaine à travers le monde. L'équation est simple, posséder ses propres installations permet d'investir et de maîtriser la qualité de service, de pouvoir notamment charger et décharger plus rapidement, et donc, explique Rodolphe Saadé, le patron de CMA-CGM, de maîtriser les coûts et d'être plus compétitif.
Jean-Baptiste Huette, et puis belle opération pour BNP Paribas aussi, ça a été annoncé aujourd'hui, BNP Paribas qui rachète les activités de banque privée d'HSBC en Allemagne, le montant de l'opération n'a pas été communiqué. 18h07, on va sur les marchés. Les marchés, rebonsoir Antoine.
Rebonsoir Guillaume.
Comment ça s'est passé aujourd'hui à la Bourse de Paris?
Pas trop mal parce qu'on termine en hausse et c'était pas donné. Vous vous souvenez, au matin, on a eu les indices PMI en Europe qui étaient vraiment pas bons du tout. Le PMI industriel qui est sous les 50 points, sous la barre d'expansion. En plus, on a eu des mauvais résultats dans le secteur du luxe avec Hugo Boss en Allemagne. On a eu aussi des abaissements de recommandations de la part de Bank of America sur le luxe français. Donc on peut dire qu'on s'en tire pas trop mal. Plus 0,1% pour le CAC 40, 7508. Mais alors regardez l'écart de performance. On a quand même le DAX à Francfort qui gagne 0,68% et l'Eurostock 50 plus 0,29%. Donc on a un vrai poids autour notamment du secteur bancaire qui a pesé très lourd. Crédit Agricole, moins 4,5% à 13,82€. BNP Paribas, moins 3,7% à 62,41€. Et la plus forte baisse du CAC 40, c'est Edenred, abaissement de recommandation, enfin d'objectif de cours de Jefferies. Et le titre perd 5,6% à 33,36€. On s'est replié sur des valeurs industrielles. Stellantis, plus forte hausse de l'indice, plus 2,2% à 13,80€. Mais à noter les bonnes performances aussi de Schneider Electric ou encore d'Air Liquide. Le CAC 40, plus 0,1, 7508 points. Le $1, 11,26.
Merci beaucoup Antoine. On regarde rapidement ce qui se passe à Wall Street. C'est la mi-séance, bien sûr, sur le marché américain. L'indice Dow Jones. On va le voir dans un instant apparaître.
Ça se passe bien.
Ça se passe bien, vous me
confirmez. Plus 0,1% pour le Dow Jones à l'instant.
42 099.
Voilà, et plus 0,24% pour le Nasdaq.
Eh bien, il a tout dit. Merci Antoine, avec nous demain soir, même heure, 18h10 sur BFM Business. 18h10 précisément, c'est donc Laurent Milcœur, le co-gérant du groupe Etam, qui est l'invité d'Edwige Chevrillon. C'est la grande interview dans un instant. À tout de suite.
BFM Business présente Edwige Chevrillon. La grande interview.
Grande interview un peu sans dessous, sans dessus, sans dessous. Puisqu'on va parler de lingerie, ça va nous changer, mais bien sûr, c'est un grand chef d'entreprise qui est avec nous. Laurent Melchior, qui est le co-gérant d'Etam. Bonsoir, Laurent Melchior.
Bonsoir, Edwige.
Merci d'être là. Beaucoup de choses à voir avec vous. Demain, vous, c'est votre grand show. Il y en a d'autres. C'est la formation du gouvernement, c'est le discours du petit général. Vous, demain, c'est avec la question de votre show que vous allez faire, 16e défilé. C'est un moment extrêmement important. Ah, visiblement, il y a un petit problème de micro. Donc, on recommence. Voilà. Excusez-moi. Voilà, c'est ça, vous voyez, c'est ça, la technique. Donc, je disais, demain, c'est un grand moment pour vous, puisque vous faites votre 16e live show. La lingerie, c'est un peu le Victoria's Secret. Je sais bien que vous n'aimez pas trop qu'on compare.
Mais c'est qui recommence à faire son show, puisqu'ils avaient arrêté pendant plusieurs années.
Ils avaient arrêté pendant longtemps, mais c'est ça qui vous a un peu inspiré. C'est la Fashion Week à Paris, donc c'est un moment très important.
C'est plutôt la Fashion Week qui nous a inspiré, en fait. Ouais. La réalité, c'est que Etam est une marque et leader français en lingerie. On est un des leaders européens. Et on a une différence, et chaque marque doit avoir sa propre différence sur ses produits et sur son univers de marque, qui est qu'on est la marque de lingerie la plus à la mode sur cette gamme de prix. Et la Fashion Week parisienne, qui est la plus grande fashion week mondiale, quoi de mieux que exposer ses modèles et sa marque à ce moment.
Alors, on va en parler, mais vous comprenez bien qu'on est un peu rattrapé
par l'actualité.
Par l'actualité politique. Vous avez vu cette formation du gouvernement, nouveau gouvernement de Michel Barnier. Est-ce que c'est un gouvernement, à votre avis, pour ce qu'on en sait aujourd'hui, je ne vous demande pas de lire dans le marc de café, est-ce que c'est un gouvernement que vous considérez pro-entreprise?
Disons que ça pourrait être plus difficile.
Ça
pourrait être pire. Je pense qu'on a au budget et à l'économie des ministres jeunes et dynamiques. On a sur l'environnement qui est un vrai sujet aujourd'hui, une vraie contrainte pour les entreprises, même si évidemment on doit bouger. Je pense qu'Agnès Pannier-Runacher est quelqu'un qui est pro business. Je connais moins personnellement
Marc Ferracci, qui est le ministre en charge de l'industrie, qui sera sur ce plateau mercredi.
Et on a aussi Laurence Garnier qui est ministre de la Consommation. Alors, ouais, à quoi va ressembler le ministère de la Consommation? Voilà, c'est vraiment un point d'interrogation. Je dirais que
elle connaissait plus les familles, voilà.
Elle connaissait plus les familles, et on va pas débattre sur son point de vue. Je pense que un point, il faut être vigilant, c'est cette hausse d'impôts à venir, que des flat tax progressent légèrement dans un effort aujourd'hui de reconstituer les comptes publics. À la limite, pourquoi pas? On est à 30%. À combien ça va passer? 30, 32, 35.
Donc vous dites, parce que c'est vrai que la seule chose qu'on sait à peu près, c'est que sur les retraites, il n'y aura pas de grand Big Bang, il faut améliorer la réforme, mais dans le cadre financier qui restera le même, a priori. Et puis sur la fiscalité, il a dit qu'il fallait que ça touche, Michel Barnier, il fallait que ça touche les plus fortunés, et voire certaines entreprises, grandes entreprises. Mais
Il y a...
Où est-ce qu'on met le seuil de la grande entreprise en France?
Voilà. Alors, est-ce ça, que le groupe Etam, 200 millions de chiffre d'affaires, même plus maintenant?
Bah, on est souvent considéré une grande entreprise, alors qu'en fait, on fait partie des petites grandes entreprises. On est une ETI typique qui sont assez préservées en Allemagne. En France, on l'est quand même beaucoup moins. On l'a vu dans le Covid. Hein. Les petites entreprises étaient très préservées, aidées, mais finalement, probablement tout le monde a été trop aidé. Hein. Pas nous, en l'occurrence, on a eu relativement peu d'aide. Et on est dans la catégorie des grosses entreprises qui vont jusqu'à 40-50 milliards. Et donc, du coup, l'écart entre une entreprise de 900 millions et une entreprise qui fait 50 milliards, il est absolument colossal. Il est encore plus important qu'une entreprise qui fait 10 millions.
Et donc là, vous dites quoi, là, Michel Barnier, attendez, stop, nous...
Non, je dis, j'entends dire que certaines niches fiscales, dont l'allégement de charges sociales, sur les bas salaires, pourraient être mis en cause. Donc l'intégration du CICE, qui a fait baisser le coût du travail sur les petits salaires, qui permet d'augmenter le SMIC et que ce soit, entre guillemets, supportable, parce que le SMIC, c'est sûr que c'est nécessité pour bien vivre en France d'avoir un SMIC un peu plus confortable. Pour autant, si on allégeait les charges sociales, ça serait un vrai problème. Nous, on a évidemment une pyramide de salaires qui est assez écrasée vers le bas compte tenu de la population qu'on a en magasin. On paye sur 13 mois, donc on est déjà 8% au-dessus du SMIC. On a un système de bonus, etc. Mais pour donner une idée, juste depuis le début de l'année, on a ces 800 CDI qui ont été recrutés en France
dans nos magasins.
Au SMIC ou une indexation du SMIC. Oui. SMIC, plus on est plus 9%, ça c'est le minimum. Et ensuite, on a une grille. C'est certain que cette rotation de personnel en magasin, dans des industries comme les nôtres, le coût du SMIC devenait trop élevé, donc on alourdissait à nouveau les charges sociales sur ces bas salaires, on est obligé d'ajuster, tout simplement parce que l'équation économique, dans des industries qui sont tendues aujourd'hui, ne permet pas de recruter autant que nécessaire. Donc je dis juste, c'est sur les bas salaires, c'est les entreprises qui payent, mais c'est les bas salaires qui trinquent, entre guillemets.
Donc vous, ce que vous dites, non, on ne touche pas aux cotisations sur les bas salaires, premier point.
Je pense qu'il faut aider les entreprises à recruter ces bas salaires. En tout cas, il ne faut pas moins les aider.
Est-ce que payer une surtaxe, un impôt de solidarité ponctuellement, si ça existe, est-ce que vous dites ok, ça peut se comprendre?
Le problème, c'est qu'en France, c'est jamais ponctuel. On prend des mauvaises habitudes. Je pense que la compétitivité, on n'est plus dans un monde où les frontières sont fermées, même si ça a tendance à se reproduire. Et donc, il y a une compétitivité aujourd'hui de la France par rapport à ses voisins européens et ses voisins mondiaux. Aujourd'hui, notre taux global d'impôts, quand on intègre tous les différents types d'impôts, est parmi les plus élevés. Donc, que des entreprises qui font des espèces de bonus, d'accidents de profit pour des raisons macroéconomiques, et je dis pas ça parce qu'aujourd'hui on est sur BFM et que ça appartient à CGM, mais c'est des choses qui peuvent être envisageables, mais faire attention, des entreprises comme les nôtres, on a des besoins, il y a des industries qui ont des besoins d'investissement. En fait, il faut pas confondre le profit, la taxe et les besoins d'investissement. Donc souvent on dit une entreprise elle est profitable, mais en fait quel est son vrai cash flow libre compte tenu des investissements qui sont nécessaires.
Oui, d'accord. Il y a un point aussi, on en parle avec Sylvain Maillard, qui est député macroniste, qui était l'ancien président du groupe Renew à l'Assemblée nationale. Il disait le pacte Dutreil. On peut, donc le pacte qui est favorable aux familles, à la transmission d'entreprises familiales. Vous êtes un groupe familial. Mmh. Est-ce que lui, il disait, il y a quand même un petit peu peut-être des excès sur l'immobilier. Il faudrait peut-être le rectifier un peu.
Alors,
vous dites sur l'immobilier, stop, attention danger.
Si je peux me permettre, j'ai pas écouté ce que ce cher député a pu dire, mais le pacte Dutreil ne s'applique pas à l'immobilier.
Si l'immobilier d'entreprise, bien sûr.
L'immobilier à partir du moment où c'est utilisé dans l'hôtellerie, etc. Je pense que si l'immobilier fait partie du modèle d'entreprise et que c'est l'entreprise qui investit et qui crée la croissance
d'exploitation, si vous voulez.
L'immobilier, c'est ça. Donc quand vous êtes un hôtelier, les murs de votre
les murs d'usine.
Je pense qu'on peut pas couper le En fait, il faut que ces entreprises familiales, les familles ont la volonté d'investir dans la durée, en fait, c'est ça la condition sine qua non, elles doivent pouvoir être transmises. Déjà, transmettre, même avec un pacte Dutreil, ça coûte très cher. Quand vous êtes une entreprise privée, quand vous êtes cotée, vous avez la cote, vous pouvez vendre des titres sur le marché, etc. Mais donc, il faut quasiment tout le temps ouvrir son capital. Quand vous avez une valeur importante. Donc, je pense que c'est important que les entreprises puissent fonctionner dans la durée, comme c'est le cas chez nos voisins européens. Donc, ça serait vraiment aujourd'hui. Ça forcerait un certain nombre d'entreprises en fait, à être vendues à des fonds de private equity qui font un ou deux tours. Et ensuite, les entreprises, souvent, dans notre métier, en tout cas du retail, sont en difficulté. On s'aperçoit que les entreprises familiales sont celles, quand même, qui durent dans la durée et qui ont les meilleures performances. Donc, je pense que ça serait une
bêtise de revenir. Et Laurent Melchior, est-ce que vous pensez que ça pourrait faire refuir des entrepreneurs comme vous à l'étranger?
Alors nous, on a toujours été résidents français, toute ma famille. Hein, on n'a jamais moi, j'ai fait mes études à Londres et j'ai travaillé en Angleterre, mais globalement, on a toujours habité en France. Et aujourd'hui, ma famille est en France, mes parents sont en France, et on y tient. Mais si à des moments donnés, en fait, l'équation économique n'est plus tenable, clairement, si le pacte Dutreil était amené à être aménagé de manière très forte, je connais pas mal de monde qui déciderait de partir en France. Il y a des pays comme l'Italie qui proposent des solutions très alléchantes pour ceux qui veulent transmettre leur entreprise.
Voilà, message envoyé. Textile, on revient sur votre secteur. Donc, juste, le groupe Etam, c'est 900 millions. Est-ce qu'en 2024, ça sera un peu plus ou un peu moins?
On est en légère progression de chiffre d'affaires. On fait tourner notre parc magasin. On a le e-commerce qui progresse. On a une rentabilité qui progresse cette année de manière assez significative. Donc ça, c'est le fruit du travail sur le produit, la marque. Hein, quand on fait un grand show comme on va le faire demain soir, c'est parce que les marques doivent parler. Hein, donc en fait, ce qui commence une marque, c'est le produit d'abord. Le produit est au centre. Hein, Elon Musk est le meilleur pour dire c'est mon produit qui prime. Et puis derrière, la façon dont on communique autour de ce produit. Et quand on n'investit pas assez sur le produit et les technologies qui permettent d'amener au meilleur produit et les équipes qui permettent d'amener au meilleur produit et qu'on communique pas autour, on disparaît. Et tous les acteurs textiles qui ont pu disparaître.
Oui, parce que ça a vraiment été un été meurtrier, hein, quand même.
Un été de plus, j'ai envie de dire, meurtrier dans notre industrie. Pour autant, certaines marques se relancent et certaines marques françaises sont performantes sur différents niveaux de gamme. Alors, j'y cite trop, mais il y a Camailleux qui a relancé depuis quelques semaines par le groupe Célio. Il y a Inditex qui continue de très très bien performer, qui est une boîte cotée dont tout le monde a les chiffres. Des marques comme Pollen qui faisait des sacs à main en cuir qui était du milieu de gamme et monté en gamme avec des très bonnes performances, et un groupe comme Etam qui se porte bien depuis plus de 100 ans avec des années plus difficiles.
Oui, mais il y a des marques un peu traditionnelles aussi qui ont disparu.
Mais parce qu'il n'y avait plus la compétence, parce qu'il n'y avait plus les investissements, hein, parce que c'est un métier où quand vous gagnez de l'argent, même quand vous faites un EBITDA de 60, 70 millions d'euros sur 900 millions de chiffre d'affaires, l'intégralité du free cash flow que vous générez, vous le réinvestissez dans l'entreprise en capex. Une petite année d'investissement pour un groupe comme Etam, c'est 35 millions. Donc vous devez déjà sortir 135 millions de free cash flow pour pouvoir investir dans les ouvertures de magasins, dans la rénovation, dans la technologie, quand on renouvelle un système
d'un. Et sinon, l'addition se paye rapidement.
Vous devenez non performant. Ouais. Donc quand vous êtes en LBO et que la dette représente ces 35 millions et que vous ne sortez pas l'excess cash, vous ne pouvez plus investir, les entreprises elles disparaissent. Dans tous ces métiers du produit, du consumer good, l'environnement de marque et l'environnement retail est absolument essentiel pour le succès. Donc nous, on a cet engagement de réinvestir. C'est pour ça que les entreprises qui sont dans cette mouvance-là, il faut qu'elles puissent être transmises à condition que les conditions restent les mêmes. Je pense que c'est vraiment important. Et c'est pour ça qu'on est encore là. Et donc le show, typiquement en Covid, en 2020, on avait décidé de maintenir le show. Et pourtant, c'était une des choses qu'on aurait pu couper, parce que les marques doivent parler d'elles.
Alors, parlons de ce fameux show, parce que c'est vraiment le côté, c'est votre fer de lance, enfin, c'est ce qui porte votre groupe. Donc, c'est un show qui se déroule à la Monnaie de Paris, sur les quais de Seine, près du Pont Neuf. C'est donc la 16e édition. Faites-nous rêver un instant quand même, Laurent Melchior.
C'est des salons particuliers, c'est 550 invités triés sur le volet. C'est évidemment des rediffusions en direct. Alors on passe sur
TikTok,
TikTok, Instagram, etc. On passe aussi sur la télé française à la suite du quotidien en direct sur TMC. Mais derrière, c'est sur les réseaux sociaux, c'est jusqu'à 300 millions de posts qui sont vus autour du show dans la semaine qui suit le défilé. Donc, à partir du moment où le contenu est de qualité et qu'il est relayé par un environnement d'influenceuses, d'influenceurs et de médias performants, et c'est pour ça qu'on est partenaire avec le groupe Meta sur cet événement, ça permet en fait de rendre la marque plus forte. Ce que les Américains savent très bien faire, en fait, faire le show et le faire faire savoir. Ouais. Et donc du coup, c'est vraiment effectivement un moment fondateur pour la marque Etam dans l'année. C'est notre plus gros événement de communication. Et la Fashion Week, c'est la Fashion Week, on a la chance d'être français, c'est la Fashion Week la plus internationale de toutes les Fashion Week, et ça nous permet de rayonner au travers des 50 pays dans lesquels on vend la marque.
Qui est le vecteur, le média le plus fort pour votre marque Etam, hein, sachant que vous avez une autre marque de prêt-à-porter qui s'appelle Maison 123.
Maison 123, et on a une marque de lingerie qui s'appelle Undiz également.
Oui, absolument. Où vous êtes partenaire.
Non, enfin, non, Undiz, on est à 100%, 100% et après on a deux petites marques, Isée, dont on a 80%, et la fondatrice est encore très actionnaire et dirigeante de son entreprise, et Livy, qu'on a cofondée avec une ancienne de nos stylistes.
Voilà, je confondais avec Livy, pardon. Sur les vecteurs le plus important, c'est les influenceurs, les influenceuses. Est-ce que c'est toujours le cas ou pas?
C'est toujours le cas. Maintenant, la nature des influenceuses est en train d'évoluer. Ouais. Les influenceuses professionnelles, hein, qui sont des...
Pour vous, il y en a combien?
Il y a l'infini, en fait.
D'accord, non, mais...
Et vous parlez d'une marque comme Maison 123, hein, on parle d'un été meurtrier dans la mode. Maison 123, c'est typiquement une marque qui est milieu de gamme, qui fait 150 millions de chiffre d'affaires, qui était en difficulté il y a quelques années, et avec un très beau produit.
Ouais. Et croissance une très belle équipe sur le digital.
Une super dirigeante, une super styliste, et un travail marketing en termes d'image et en termes de relais auprès d'influenceuses. Aujourd'hui, les quasi-intégralités des clientes qu'on recrute sont grâce à l'influence. Et là, on parle de micro-influence, d'influenceuses entre 2000 followers et 100 000 followers. Voilà. C'est ces influenceuses qui ont des communautés qui ont envie de leur ressembler, qui ont confiance en ce qu'elles disent parce que c'est des filles qui sont authentiques. Après, on se crée de l'image avec des méga-influenceuses. Kim Kardashian, évidemment, elle a un retentissement mondial. Mais on sait qu'elle nous vend quelque chose.
Elle sera là demain.
Kim Kardashian ne sera pas là. Mais
Kim sera pas
demain,
là.
On a 250 influenceuses qui viennent des quatre coins du monde qui sont là. Que ce soit des Mexicaines avec lesquelles on est en partenariat et on fait des collaborations depuis 3 ans. Des Américaines, beaucoup de Françaises, des Léa Louis, Léna Situation, etc. Qui sont présentes à notre show. Et donc, c'est un mix entre des Français et des internationaux. Mais c'est évidemment un relais très important. Mais pour ça, il faut leur donner le bon contenu à relayer et que la marque ait quelque chose à raconter et que les produits soient au rendez-vous. C'est-à-dire que juste payer des influenceuses, s'il n'y a pas derrière un contenu qui sort du lot, votre poste, en fait, il fait pchit, il apparaît et puis les gens ne regardent pas et il disparaît. Et donc, du coup, c'est ça qu'on anime et donc on travaille avec elle en fait, tout au long de l'année. Et ça, c'est le point d'orgue de ce calendrier marketing qu'on a avec ces influenceuses. Maintenant, les médias, les investissements qu'on fait sur le groupe Meta ou chez Google sont évidemment importants. Ensuite, on fait un peu de télé, on fait de la presse également. Et tous ces médias, en fait, ils se complètent. Et évidemment, avec JC Decaux de l'outdoor advertising, hein, de l'affichage extérieur, qui est très important pour
la marque. Et ça coûte combien? On peut savoir le coût?
Du défilé?
Oui.
On l'a jamais donné.
C'est une occasion.
On l'a jamais donné. Mais une
la transparence.
Autre, on dépense un peu plus de 4% de notre chiffre d'affaires en marketing et hors média. Et donc c'est un coût significatif. Mais finalement, c'est un coût dont tout le monde parle de ce défilé. Et on a réussi à en faire un rendez-vous de la Fashion Week après 16 ans. On a travaillé pendant 15 ans avec un garçon qui s'appelle Jean-Yves Le Fur, qui est décédé en début d'année. Donc c'est la première fois qu'on le fait avec une nouvelle agence. Il nous avait apporté cette idée. Et c'est devenu un rendez-vous parce qu'on y met les moyens et parce qu'on fait ça avec le cœur et avec goût.
Le Made in France, il est possible comment? Etam, par exemple, Maison 123, c'est fabriqué où?
Alors, Etam, c'est fabriqué beaucoup en Asie.
Reste.
Beaucoup en Chine, beaucoup au Bangladesh. Ouais. Ensuite, on a d'autres pays d'Asie qu'on est en train d'explorer.
Vous ne pouvez pas faire fabriquer en France.
Alors, on a conçu notre première usine en Tunisie. Donc, on a ouvert il y a un an une usine en Tunisie.
On se rapproche.
Qui sera dimensionnée pour faire plus d'1,5 million de pièces, dans laquelle on fabrique l'intégralité des pièces de nos soutiens-gorges pour avoir une réactivité. C'est-à-dire que se rapprocher, il faut être plus réactif. Le Made in France, sur une gamme comme Etam, c'est impossible. Ce que je disais, c'est qu'un soutien-gorge fabriqué en Chine, il coûte 100, au Bangladesh, il coûte 90, en Tunisie, il coûte 130, en France, il coûte 300.
Ouais.
Donc, en fait, on n'a pas les niveaux de prix qui le permettent. Mmh. Une marque comme Livy fait quelques produits de haute lingerie en France. Maison 123 fait quelques produits en France, quelques produits en Italie, des pulls, est un prêt-à-porter. On a quelques pulls qui viennent d'Italie, parce qu'il y a un vrai savoir en Italie. On a des collants qui sont fabriqués en France. Et demain, on pourra probablement fabriquer des culottes en France avec des usines assez robotisées. C'est vrai que l'écart de coût de main-d'œuvre aujourd'hui en France et productivité ne permet pas de vendre ces niveaux de prix de produits. Ouais. Donc, il faut être à partir de Maison 123. Voilà, on a une petite part de notre gamme qui est fabriquée en Europe, dont certains produits en France.
Ouais, et puis on sait que l'IA est importante pour vous, hein, aussi. Vous travaillez un petit peu.
L'IA est importante. Alors les premiers usages de l'IA, c'est les images, c'est les photos. Hein. Aujourd'hui, on est capable de produire, de mettre un produit sur une fille virtuelle dans un décor virtuel à un niveau de qualité qui est supérieur à celui de la photo. Donc pour le e-commerce, c'est clairement quelque chose qu'on est en train de regarder. Je pense qu'il y aura toujours besoin d'égéries qui ont une vraie histoire que les fans suivent. Et donc ça sera toujours important. Ça sera un mix des deux. Mais l'IA, tout le monde parle de l'IA comme c'était facile. Faire de la traduction l'innovation c'est facile, etc. Maintenant, l'IA dans l'entreprise, il faut que la data de l'entreprise soit extrêmement bien organisée. Donc d'abord, on a un sujet, nous, qui est de faire un énorme data lake.
D'organisation.
Après là. Ouais. Et du coup, derrière, on va pouvoir déployer des usages d'intelligence artificielle.
Merci beaucoup. Merci, Laurent Melchior, d'avoir
merci
été avec
vous,
nous.
Merci à vous,
Edwige. Donc, co-gérant d'État, mais puis
rendez-vous demain à 21h
absolument,
sur etam.com voilà. pour le show.
Merci beaucoup. Show must go on avec Guillaume Paul, qui nous apporte toute l'info.
BFM Business, l'info éco.
Il est 18h30 sur BFM Business dans l'actualité ce soir. Plus qu'une rentrée, c'était une pré-rentrée en fait aujourd'hui à l'Élysée, puisque le premier conseil des ministres de l'ère Michel Barnier a duré moins d'une demi-heure. Michel Barnier qui a appelé les membres de son équipe à être, je cite, irréprochable et avoir du respect pour tous les partis politiques. Mais on y revient bien sûr dans un instant. Beaucoup de choses côté entreprise. D'abord dans le secteur bancaire, Unique Crédit qui détient ce soir 21% du capital de l'allemande Commerzbank. Il y a 10 jours, les Italiens étaient à 9%. Berlin dit ce soir clairement qu'il s'opposera à une éventuelle prise de contrôle par UniCredit. Et puis, c'est la grosse rumeur qui court depuis ce week-end dans la tech. L'américain Qualcomm va-t-il racheter Intel ? C'est le Wall Street Journal qui donnait l'information vendredi dernier. Intel cherche-t-il une parade ? En tout cas, d'après d'autres sources, le gestionnaire d'actifs Apollo serait prêt à injecter 5 milliards de dollars au capital d'Intel, peut-être pour barrer la route à Qualcomm, précisément. 18h32, les experts arrivent. La première partie jusqu'à 19h. Dans un instant, à tout de suite.
Good evening business. Actu, experts, débat, interview des grands acteurs de l'économie.
Allez, 18h35, ils sont là, nos experts. Les experts BFM, première partie jusqu'à 19h pour refaire l'actu. Edwige Chevrillon est avec nous. Rebonsoir Edwige.
Rebonsoir, bonsoir.
Caroline Morisseau est avec nous. Bonsoir. Bonsoir Caroline. Mathieu Pêche-Berti est avec nous.
Bonsoir. Bonsoir.
Emmanuel Le Chypre est avec nous également. Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, premier conseil des ministres aujourd'hui qui a duré quoi, une demi-heure? C'était une pré-rentrée, comme on dit. Avant qu'elle dure. Alors, à tous ceux qui se disaient peut-être que les marchés financiers vont être un temps soit peu rassurés par la constitution d'un gouvernement. Ben non, regardez le 10 ans français qui a pas bougé. Le problème, c'est que le 10 ans allemand s'est détendu et donc vous savez ce qu'on appelle le spread, l'écart de taux avec l'Allemagne qui a monté à 78 points. Ça a l'air anodin, mais on n'avait pas vu ça depuis le 5 août. Donc il n'y a pas eu d'effet waouh du côté des marchés financiers autour de ce nouveau gouvernement finalement. On va attendre de voir, je sais pas, peut-être l'absence de poids lourd peut-être au sein de l'équipe, je sais pas qu'est-ce qui a pu jouer éventuellement ou pas.
Ce qui a pu jouer, c'est que comme on ne tient aucune des promesses budgétaires qu'on fait depuis 40 ans, on ne fait plus confiance à un gouvernement français sur ses intentions. C'est-à-dire que ça, il suffit pas d'afficher des bonnes intentions, on va réduire les déficits, etc. Non, ça ne marche plus. Donc ça, il y aura un effet positif si jamais, effectivement, il y a un budget qui rassure, avec des mesures qui rassurent, etc. Mais sur la bonne mine du Premier ministre, ça fait bien longtemps que personne ne croit.
Sur la bonne mine, je sais pas.
Qu'un Premier ministre français, sur uniquement son nom, peut rassurer.
Je sais pas, Edwige, il y avait eu un grand argentier à Bercy, un François Villeroy de Gallo.
Là où le bas baisse le plus. C'est-à-dire qu'effectivement, Antoine Armand a certainement beaucoup de qualités, mais il est peu connu à l'extérieur. Cela dit, il faut quand même voir qu'il sera un peu sous surveillance, hein, parce que vous avez Jérôme Fournel, donc celui qui a préparé le budget 2025, qui est donc le directeur de cabinet de Michel Barnier. Donc c'est sûr que c'est pas forcément de quoi rassurer. En même temps, si on avait eu un François Villeroy de Gallo, peut-être que ça aurait fait un trio très dont la voix aurait pu porter à Bruxelles entre Emmanuel Macron, Michel Barnier et François Villeroy de Gallo. Là, c'est pas le cas. C'est plus qu'on attend attend les économies. Pour l'instant, on n'en voit aucune.
Mathieu Pêche-Berti,
moi, je pense que c'est quand même moins sur le visage que sur les paroles ou l'absence de paroles qui ont eu lieu ce week-end. Il y a eu une petite phrase de Michel Barnier sur à la fois le fait qu'il n'y aurait pas de hausse d'impôts pour les classes modestes, qui politiquement est une bonne nouvelle, mais qui d'un point de vue marché ne l'est pas forcément. Je pense que ça n'a rien à voir avec le casting. Quand bien même Mario Draghi serait aux manettes. Peut-être sauf lui.
À voir.
Pas encore eu Mario Draghi.
Quand on regarde l'expérience italienne, quand même, ça joue.
Alors, les hausses d'impôts, et on va revenir à ce que disait Laurent Melchior, qui nous a dit des choses très très intéressantes, qui regarde comme tous les patrons, évidemment, ce qui peut éventuellement arriver. On fait l'inventaire rapidement des pistes, vous savez, en matière de hausses d'impôts qui circulent. Donc, de quoi est-ce qu'on parle? On parle de faire une surtaxe d'IS temporaire, on parle de coups de rabot sur les allègements de charges, on parle de rachat d'actions, on parle de surprofit sur les énergéticiens. On parlera avec Mathieu d'ailleurs d'EDF dans un instant.
Bon, Laurent Melchior, il n'est pas très enthousiaste hein, par rapport à tout ça.
Non, c'est clair. Lui, surtout, c'est ce qu'il dit. Attention, c'est les baisses de cotisations, la suppression des baisses de cotisations pour les bas salaires.
Ouais.
Ça, c'est ce qui lui fait le plus peur, parce que évidemment, dans le textile, nous, c'est des bas salaires, même si on est sur 13 mois, même si on a, il y a des bonus en fonction de la vente en boutique. Mais donc, ça, c'est quelque chose qui l'inquiète beaucoup. Il dit, pour nous, ça va être un surcoût absolument énorme. On nous considère comme une grande entreprise, mais en fait, on est une petite grande entreprise. Donc, pour lui, c'est très embêtant. C'est vraiment ce qui lui fait le plus peur avec le pacte Dutreil. Si jamais il est modifié, Michel Barnier n'en a pas parlé pour l'instant.
Comment est-ce que vous regardez, Emmanuel, ce concours Lépine des propositions, des pistes, des ballons d'essai en ce qui concerne les hausses d'impôts pour les entreprises? Surtaxe d'IS exceptionnelle, on rappelait qu'on avait déjà fait ça en 2017. Mais pour les entreprises qui font plus de 250 millions d'euros de chiffre d'affaires, ce qui faisait quand même un petit peu de monde finalement. Hein, comment vous...
La surtaxe générale d'IS, ça paraît difficile à envisager.
Rapporte.
Oui, mais c'est un peu comme quand on dit... on va pas augmenter l'impôt sur les classes moyennes. Là, vous augmentez de facto les impôts sur la classe moyenne des entreprises. Si vous augmentez l'IS pour toutes les entreprises, ne serait-ce que temporairement, c'est une augmentation de l'IS. Donc, c'est quand même un peu compliqué de dire qu'on ne va pas taxer ceux qui travaillent. Et là, vous taxez en plein les PME, etc. Mmh. Et augmenter l'IS. Donc, moi, je pense que on va plus se diriger sur finalement une taxe, et Michel Barnier il a plutôt cité ça, c'est-à-dire plutôt cité les multinationales, les grandes entreprises qui vont bien. Donc en gros, on voit bien que l'idée c'est de faire quelque chose de politiquement symbolique plus que de financièrement rentable, parce que grosso modo, si vous allez regarder tout ce que ça peut rapporter, ça va pas rapporter très lourd, hein. Si vous surtaxez les très gros profits, c'est-à-dire en gros c'est quoi, c'est LVMH, c'est Total, c'est les banques. Finalement, donc, alors évidemment, personne va pleurer sur une petite taxation supplémentaire de la Société Générale, du Crédit Agricole, de BNP Paribas ou de Total. Mais vous allez pas aller chercher vous allez aller chercher quelques milliards.
Oui, mais enfin,
c'est tout.
Bon,
mais
voilà,
mais disons savez, que c'est peut-être une façon de mettre un peu de justice
sociale dans politique.
C'est le pendant, c'est qu'il a dit qu'il n'y aurait pas d'impôts. Il était hors de question d'augmenter les impôts et la fiscalité pour les classes moyennes et sur les bas revenus. Donc, il ne va pas toucher à l'impôt sur le revenu. De toute manière, c'est aussi un message qui a été envoyé aussi par rapport à la gauche, par rapport à ce qui va se passer à l'Assemblée nationale. Et là, on a le pendant vis-à-vis des grandes entreprises. Ça fait partie du même message.
Un petit message aussi sur le pacte Dutreil, parce qu'il en a parlé aussi Laurent Melchior. Il dit allez voir du côté de l'Italie s'il y a un problème avec le détricotage du pacte Dutreil. Il y a d'autres pays où.
Alors, Michel Barnier n'en a pas parlé pour l'instant. Donc, je poserai la question à Marc Ferracci, puisqu'il vient d'être nommé ministre de l'Industrie. Il devrait être là mercredi pour la grande interview. Donc, c'est une bonne question. C'était Sylvain Maillard qui avait levé un peu le voile là-dessus en disant que ça fait partie des choses qu'on est en train de regarder parce que ça coûte cher, le pacte Dutreil. Mais maintenant, c'est très efficace pour les entreprises familiales.
Oui. Après Edwige, il faut reconnaître que
Manuel,
il pourrait peut-être y avoir une certaine forme de plafonnement qui n'existe quasiment pas aujourd'hui. Ouais. Donc, il y a effectivement sans doute quelques abus du côté du pacte Dutreil.
Oui, notamment sur l'immobilier d'exploitation, ce que soulevait Sylvain Maillard. Ouais.
Et donc là, pourquoi pas. Mais attention, encore une fois, à tous ces signaux qui renvoient l'image d'un pays instable sur le plan fiscal et d'un pays qui finalement avait donné l'impression, parce que c'était un peu ce que les étrangers croyaient, que grosso modo la France avait changé depuis Emmanuel Macron et que finalement on se rend compte que non, la France n'a
peut-être
pas changé.
Rien n'est fait pour l'instant.
Attention, parce que c'est vraiment très très explosif comme matière première.
Oui. Avant de parler d'EDF, un mot aussi, puisqu'on est parti dans les hausses d'impôts pour les particuliers. Alors là, il y a ce débat sur le gel du barème de l'impôt sur le revenu. Ouais. Et en même temps, Michel Barnier qui nous dit hier soir, je ne veux pas alourdir la fiscalité des classes moyennes et des plus modestes. Donc il y a un contresens total. Comment est-ce qu'ils vont s'en sortir? Est-ce que vous pouvez geler certains seuils et pas les autres?
Bien sûr.
Ah non, mais je sais.
Si vous regardez la structure de l'impôt sur le revenu, la moitié des Français qui n'en payent pas, la moitié les plus modestes,
44%
et qu'après, vous avez 70% de cet impôt qui est payé par les 10% les plus riches, de facto, si vous augmentez cet impôt, il est payé par les plus riches. Après, mais encore une fois, vous n'allez pas chercher grand-chose. Si vous appliquez les effets de seuil totaux, c'est-à-dire qui s'applique pour tous les contribuables. 4
milliards.
Si vous les gelez, c'est 4 milliards. 4 milliards. Vous vous rendez bien compte que si vous ne jouez que sur les seuils supérieurs, ça va faire forcément moins. Donc là encore, on est sur des sortes de grandeurs financiers qui ne sont pas du tout à la hauteur des besoins.
Pour l'instant, on
ne
voit pas très bien, parce que Emmanuel a raison. Donc on voit ce qu'il a annoncé sur la fiscalité, ça ne rapportera pas beaucoup. Et sur la réforme des retraites aussi, il est très clair. On dit on ne touche pas, on va en parler avec notre grande spécialiste, évidemment, mais on ne touche pas au cadre financier. Donc ça veut dire qu'on ne va pas faire non plus des grandes économies sur la réforme des retraites. Donc pour l'instant.
Quelques milliards par-ci, par-là, que je vous dise. Tiens, qui sont les plus riches? Les plus riches, ça aussi c'est le débat du jour, les plus riches.
Par 4000 euros?
François Hollande?
Non mais il y a un débat qui est absurde. Alors si vous prenez...
Depuis ce matin, c'est le concours Lépine des rapports, des études.
Mais oui, le rapport annuel sur les inégalités qui applique une méthode totalement bête et méchante par rapport au revenu médian, vous arrivez à des résultats totalement absurdes.
Je la donne puisqu'on les voit à l'image, parce que les études bêtes et méchantes que vous dites, c'est celle qu'on a choisi d'illustrer ce soir. Donc l'Observatoire des inégalités, je vous la fais très court, dit une personne seule...
3860
euros net après impôt par mois. Un couple avec un enfant, 6948 euros par mois.
Le patrimoine, vous savez combien c'est?
716 000.
C'est non
les 10% les 10%
non mais pour ces gens-là pour l'observatoire des inégalités c'est 50 000 euros le patrimoine. 50 000 euros c'est même pas une chambre de bonne à Paris, vous voyez, donc c'est absurde. Après
tout le monde est riche.
Après vous pouvez la définition raisonnable c'est les 1%, en gros c'est les gens qui payent au taux marginal de 41% l'impôt sur le revenu, c'est-à-dire à peu près 450 000 foyers. Là vous avez du souci à vous faire si vous pensez votre impôt va augmenter. Et puis après, il y a les vraiment très riches. Mais les très riches, il faut bien reconnaître que si vous regardez ce que sont les très riches, les moins riches des très riches, c'est 50 000 euros de revenus par mois.
Les plus riches,
et 7 millions de patrimoine.
Les plus fortunés.
Les plus fortunés.
Les plus fortunés, mais à ce moment-là, c'est encore... si c'est les plus fortunés, et à ce moment-là, vous allez chercher quoi? Vous n'allez pas chercher sur l'impôt sur le revenu. Vous allez chercher... Mais apparemment, il y a un tabou sur l'ISF. Donc, il n'est pas question d'augmenter l'ISF.
Alors qu'il pourrait bouger les seuils aussi.
La flat tax, les droits de succession quand même, ça m'étonnerait qu'ils fassent.
Non, il ne faut pas toucher ça maintenant.
Ah si, c'est tout à fait possible.
Maintenant?
Ah oui, sur les très très riches, oui, bien sûr.
Sur les très très riches.
Oui, mais vous situez le patrimoine sur la flat tax. Et les fils, c'était 12 millions.
Il y a un petit peu de pédagogie à faire sur l'impôt sur les transmissions, parce que c'est quand même le seul impôt que les pauvres ne veulent pas voir les riches payer. C'est-à-dire, c'est quand même extraordinaire.
Et puis il y a des niches.
C'est quand même un truc incroyable. Mais il y a quand même des choses à faire.
Il y a des niches fiscales quand même qui sont pas forcément très.
Bon, enfin, on spécule en attendant. Revenons-en aux entreprises. Mathieu Pechberti, donc. Alors, ce qui était plus intéressant, plus que le Conseil des ministres aujourd'hui, c'était les passations de pouvoir ce matin. Oui. Agnès Pannier-Runacher, qui redevient donc ministre de la Transition énergétique.
Elle redevient,
Et qui arrive alors...
Elle a les deux maintenant, oui.
Elle les a, oui.
Ouais. Et qui arrive alors que Bruno Le Maire, on le sait, a laissé dans ses cartons un projet de taxation des énergéticiens qui pourrait coûter 3 milliards d'euros à EDF. On sent que ce n'est pas vraiment son affaire. On a senti hier que ce n'est pas vraiment l'affaire d'Antoine Armand, le nouveau ministre de l'économie.
Oui, puis elle l'avait dit ici la semaine dernière, qu'elle était opposée à cette taxe EDF qui, pour essayer de schématiser, une taxe que Bruno Le Maire a laissée sur le haut de la pile, qui consiste à appliquer une taxe sur les unités de production d'électricité. Alors forcément, quand vous avez une grosse usine de production d'électricité, bim, vous prenez une taxe sur le coin du nez. Et donc comme il y a 56 réacteurs, bientôt 57 en France, c'est une taxe qui sera essentiellement prélevée sur EDF. Sur les 3 milliards d'euros de projection de recettes fiscales de Bercy, il y en a 85% qui viennent d'EDF. Le reste, c'est sur les deux autres énergéticiens, Engie et Total Energy. Alors, effectivement, chez EDF, forcément, on crie, on hurle, en disant que c'est injuste, que l'entreprise doit investir, ce qui est vrai, beaucoup, notamment pour rénover les réacteurs, pour construire les nouveaux 25 milliards d'euros d'investissement par an.
Une dette de 55
milliards. Bon, EDF va faire encore une super année, ils ont gagné 10 milliards d'euros l'année dernière, ils en avaient perdu 20 en 2022, là, ils se rattrapent. On est déjà à 7 milliards d'euros de bénéfices, donc en fait, l'État va chercher là où il peut, et c'est pas le plus simple, c'est d'aller dans une entreprise publique. Parce qu'en gros, ils décident, ils font ce qu'ils veulent, c'est à 100% public, et puis c'est un peu poche droite, poche gauche, on vous met une taxe, vous baissez un peu les prix de l'autre côté, bon, ils font ce qu'ils veulent. Aller taxer Total Energy, c'est beaucoup plus populaire, mais c'est hyper compliqué. 95% des bénéfices de Total Energy sont faits hors de France. Là, c'est en France, donc c'est beaucoup plus simple de s'attaquer à EDF. Et donc Agnès Pannier-Runacher, qui a perdu beaucoup d'arbitrage avec Bercy l'année dernière, est en train un peu de préparer les fusils et les revolvers, oui, dont l'arbitrage qu'elle aura directement avec Matignon, puisque le budget repasse directement là-haut. Elle... Donc,
C'est ça qu'il disait, ce qu'elle en pensait. Et Antoine Armand, on l'a entendu hier, a dit aussi ce qu'il en pensait. Enfin, il a dit, mais lui qui a beaucoup bossé sur les questions de souveraineté énergétique, on sent que c'est pas non plus son affaire.
Normalement, il sera lundi ici.
Non, mais vous avez une autre manière, pardon, plutôt que de taxer EDF, de dire on vous taxe pas, mais vous envoyez un petit SMS à son PDG en disant tout n'ira pas les dividendes à la fin de l'année. Enfin, mais non, mais parce que ça a duré comme ça pendant 10 ans. Et ça, c'est un sujet chez EDF.
Oui. Alors, juste quand même, la perspective qu'il ne faut pas perdre de vue pour Agnès Pannier-Runacher, c'est la grande bataille qui va se jouer avec Bruxelles sur le nucléaire.
Oui.
C'est-à-dire qu'en gros, on a quand même aujourd'hui à Bruxelles une nouvelle commission qui n'est pas franchement pro-nucléaire.
Non.
Ça, c'est quand même
qui
très clair.
Qui n'est même pas du tout pro-nucléaire.
Oui, mais Mario Draghi l'est beaucoup, donc c'est...
Mario Draghi, elle n'est pas du tout pro-nucléaire.
Non, on le sait.
Il fait des rapports, c'est la statue du commandeur. Mais je veux dire, il a aucun pouvoir de décision, Mario Draghi.
Non, donc, mais Van der Leyen lui a commandé un rapport qu'elle a sur son bureau, donc si elle prend rien en compte, bon, ce serait pas la première fois, mais non, la nouvelle commission est obligée d'être plus pro-nucléaire qu'elle l'a
été, notamment le profil des commissaires qui vont traiter ces questions n'est pas franchement rassurant par rapport à leur engagement pro-nucléaire. Donc la France s'est engagée dans un programme nucléaire, et donc Agnès Pannier-Runacher, et n'oublions pas notre nouveau ministre de l'économie, qui est quand même un spécialiste des questions énergétiques, puisqu'il a dirigé la commission sur l'énergie et sur le nucléaire, ils vont avoir un bras de fer important à jouer à Bruxelles sur le nucléaire.
Je vous signale juste, vous avez vu qu'il y a un nouveau candidat qui a été investi, le candidat de la CDU l'an prochain face au Lachov, qui s'appelle Frédéric Schmerz, et ce monsieur dit, si je repasse, si nous gagnons l'an prochain, peut-être reconsidérerons-nous notre position sur le nucléaire. Il faut quand même surveiller ça.
Mais
voilà.
Il n'y a quand même plus trop de grosses batailles maintenant. Ça c'est quand même un peu imposé en Europe. Doucement, mais...
Bien.
Le clivage est toujours là, entre les pros et les anti.
Écoutons la ministre, nouvelle ministre du Travail, Astrid Panossian-Bouvet, qui ce matin a évoqué la réforme des retraites avec des propos assez apaisants. Écoutez ce qu'elle nous disait.
Il faut rendre la dernière réforme des retraites peut-être plus soutenable pour tous et répondre aux anxiétés qu'elle a pu générer, en particulier chez les femmes, comme l'a rappelé le Premier ministre hier sur les plateaux de télévision. Travailler 2 ans de plus dans un pays où passer 55 ans, on a le sentiment qu'on n'a plus tout à fait sa place dans le monde du travail, ou quand le métier qu'on exerce est pénible, et oui, il y a des métiers qui sont pénibles toute une vie, ça peut apparaître comme anxiogène.
Voilà, Astrid Panossian-Bouvet ce matin lors de sa passation de pouvoir. Rebonsoir Caroline, donc rebonsoir. Pardon, vous nous avez attendu patiemment. Elle ouvre une brèche là, la nouvelle ministre, sur les retraites.
Alors, oui et non. Elle ouvre une brèche sur l'amélioration de la réforme. Elle considère qu'effectivement, il y a eu un certain nombre de ratés. Elle est prête à remettre les partenaires sociaux autour de la table pour rediscuter en fait de tous les sujets qu'on fait polémique pendant la réforme des retraites, c'est-à-dire la retraite des femmes, la pénibilité, les carrières longues. Là-dessus, elle est plutôt ouverte. En revanche, on comprend bien que revenir sur l'âge de départ, revenir à 62 ans, ça, c'est pas négociable. Tous les syndicats qui ont eu rendez-vous à Matignon la semaine dernière sentent bien que c'est absolument pas dans les tuyaux. On parlait d'argent tout à l'heure, c'est un enjeu à 15 milliards d'euros, donc pour le gouvernement, c'est hors de question. Et la question, c'est de savoir si derrière les partenaires sociaux vont accepter de revenir à la table des discussions dans ces conditions. Officiellement, pour l'instant, tous disent qu'il faut, à minima, pour qu'ils reviennent discuter, abroger la réforme des retraites. Ou en tout cas suspendre la mesure d'âge, officieusement, tous nous disent que si. D'abord, qu'ils ne croient pas du tout à une abrogation pure et simple de la réforme des retraites. Ils ont fait tirer un trait là-dessus. Et du coup, ils sont prêts à revenir autour de la table pour essayer de gratter toutes les améliorations qu'il est possible d'obtenir.
Nous confirmer qu'ils sont reçus vendredi par Michel Barnier avant le discours de politique générale de mardi prochain.
Exactement.
Donc, c'est un rendez-vous qui va suivre. Qu'est-ce qu'on va pouvoir éventuellement affiner sur cette réforme de retraite, améliorer?
Enfin, elle est quand même gonflée, la nouvelle ministre. Franchement, de dire qu'il y a des inquiétudes sur la réforme, je veux dire, qui sont parmi les grands gagnants de cette réforme des retraites, parce qu'il y a quand même des gagnants dans cette réforme des retraites, les femmes ont quand même gagné à cette réforme des retraites. Je veux dire, la prise en compte...
Mais reste encore
très... Vous n'avez pas gommé toutes les inégalités de l'ancien système.
Dire que cette réforme, elle a généré des inquiétudes chez les femmes...
Mais c'est vrai.
D'accord, mais ça n'empêche qu'elles sont quand même... Il y a quand même beaucoup de prise en compte des carrières longues, des carrières hachées, etc. Et leur situation est bien meilleure aujourd'hui.
C'est vraiment un sujet qui a été pointé du doigt dans la réforme des retraites. Non, elles ne sont pas avantagées.
Elles sont quand même sorties gagnantes de cette réforme.
Il y a beaucoup de femmes qui auraient eu leur droit à retraite à 62 ans grâce à leur point lié à la naissance de leurs enfants et qui devront attendre pour partir à la retraite alors qu'elles ont acquis l'ensemble de leurs droits à partir à la retraite à 62 ans.
Le système leur reste quand même relativement défavorable aujourd'hui. Effectivement, on a gommé quelques imperfections, mais il y a encore beaucoup de travail.
C'est vrai aussi sur la pénibilité, les carrières longues, même si les carrières longues, ça a déjà été amélioré effectivement par la précédente réforme des retraites.
Edwige.
Souvenez-vous, on en a souvent parlé ici, Caroline a raison. Et la réforme des retraites ou d'abrogation, c'est vraiment la ligne rouge pour devenir Premier ministre, puisqu'on le disait ici même Laurent Berger aurait accepté, mais pour lui, il y avait sa ligne rouge à lui, c'était la ligne rouge. Eh bien, on voit que ça n'a pas marché, évidemment, et que Michel Barnier, il a dû accepter. Enfin, en tous les cas, il était plutôt pro-réforme des retraites.
Ça lui a pas coûté beaucoup, puisque lui, il était pour
pousser jusqu'à 65 ans. 65 ans, donc ils ne vont pas revenir là-dessus.
Que vous dire ?
Améliorer.
Que vous dire, à part qu'on verra, comme les impôts, on verra, comme les baisses de dépenses, on verra. Ainsi va ce gouvernement qui a donc tenu son premier conseil des ministres aujourd'hui. 18h54, vu sur le web, comme tous les soirs, on met un coup de projecteur sur un article... De notre web bfmbusiness.com, c'est Frédéric Bianchi qui est avec nous. Bonsoir Frédéric.
Bonsoir.
On va voyager un peu avec Elon Musk, toujours lui, qui vient d'annoncer sur X que d'ici 2 ans, il lancerait des vols non habités sur Mars. C'est vrai ça, Frédéric ?
C'est en tout cas ce qu'il dit. Alors, Elon Musk nous a habitués aux promesses complètement farfelues. On se rappelle de l'Hyperloop, ce train 1200 km/h dans des tubes sous la Terre. Plus récemment, il a même promis de rendre la vue aux aveugles, tel un Jésus-Christ des temps modernes. Et là, il promet que d'ici deux ans, il parle de fenêtres tous les 2 ans, parce qu'on sait que la Terre et Mars, elles tournent autour du Soleil, et parfois elles sont très loin, et parfois elles sont plus près. Dans 2 ans, elles seront les deux relativement proches, et donc il compte envoyer, alors ce sont des vols non habités, c'est ce qu'il précise dans son message sur X, un très long message, dans un premier temps, et si ça fonctionne bien, eh bien ces 5 vaisseaux reviendront et repartiront 2 ans plus tard, cette fois avec des vols habités. Son objectif, il le rappelle, c'est toujours de faire partir chaque année des milliers de vaisseaux, alors là c'est évidemment à très long terme, pour démocratiser, ou en tout cas pour faire décoller enfin le tourisme spatial vers Mars et sauver l'humanité de la catastrophe et la menace.
Sauf que Frédéric, il a avec retard, mais il a quand même souvent tenu ses promesses.
Il tient parfois ses promesses. C'est alors là, attendez la suite, parce qu'il dit des vols sur Mars d'ici 2 ans, c'est là qu'il est gonflé, sauf si les démocrates gagnent le mois prochain. Il faut lire son message jusqu'au bout, et en fait, ce qui s'avère être une grande promesse d'exploration spatiale s'avère en fait être un tract politique, puisque quand on lit le texte jusqu'en bas, mais il y a quand même de sérieuses inquiétudes sur le projet à cause de la bureaucratie qui étouffe l'Amérique, et selon lui le responsable c'est le Parti démocrate, et il dit attention, si vous votez Kamala Harris, ça pourrait mettre fin à ce programme et donc ni plus ni moins que condamner l'humanité, donc votez Donald Trump si vous voulez sauver l'humanité, dit-il en substance dans ce message. Alors après, peut-être qu'il en verra effectivement d'ici 2 à 4 ans des premières missions sur Mars non habitées.
On sera fixé dans 44 jours, puisque c'est dans 44 jours qu'aura lieu cette élection présidentielle le 5 novembre prochain, et donc notre avenir sur Mars en dépend, vous l'avez bien compris. Merci beaucoup Frédéric Bianchi avec nous. Vous retrouvez cet article plus d'autres sur le web, bien sûr, bfmbusiness.com. Merci infiniment Emmanuel, merci Caroline Morisseau, merci Caroline. Edwige, on se retrouve demain 18h10.
Justement, on parlera des femmes. J'aurais l'ancienne ministre Marlène Schiappa, elle était aux passations de pouvoir. Elle sort un livre et c'est l'occasion aussi de voir comment elle juge ce gouvernement.
Un livre, c'est quoi la thématique du
sur
livre ?
Sur les femmes.
D'accord.
C'est un sujet pour vous, Emmanuel.
Non, mais comme elle a une palette de assez large en termes de livres qu'elle écrit.
Là, on est sur les femmes.
Intéressant de connaître sa thématique.
Vous regarderez, vous écouterez demain, 18h10. Merci beaucoup. 18h57, on revient dans un instant. On va parler un petit peu de ce premier conseil des ministres qui ne resterait pas dans les annales. On parlera de cette grande bataille qui sourde entre Intel et Qualcomm. Et puis plus d'autres d'infos, bien sûr, et nos experts qui arrivent à 19h15. Bien sûr, à tout de suite.
Good evening business. Actu, experts, débats et interviews des grands acteurs de l'économie.